Chapitre 34 Quelques clartés. Europe, ma fille, dit Carlos, en emmenant cette créature dans un coin du boudoir où personne ne pouvait surprendre un mot de cette conversation, Europe, je suis content de toi. Europe releva la tête, regarda cet homme avec une expression qui changea tellement son visage flétri que le témoin de cette scène, Asie, qui veillait à la porte, se demanda si l'intérêt par lequel Carlos tenait Europe pouvait surpasser en profondeur celui par lequel elle se sentait rivée à lui.
Ce n'est pas tout, ma fille. 400 000 francs ne sont rien pour moi. Paccard te remettra une facture d'argenterie qui monte à 30 000 francs et sur laquelle il y a des acomptes reçus. Mais notre orfèvre, Bidin, a fait des frais. Notre mobilier, saisi par lui, sera sans doute affiché demain. Va voir Bidin, il demeure rue de l'Arbre sec. Il te donnera des reconnaissances du Mont-de-Piété pour 10 000 francs. Tu comprends. Esther s'est fait faire de l'argenterie, elle ne l'a pas payée, elle l'a mise en plan. Elle sera menacée d'une plainte en escroquerie. Donc il faudra donner 30 000 francs à l'orfèvre et 10 000 francs au Mont-de-Piété pour ravoir l'argenterie. Soit 43 000 francs avec les frais. Cette argenterie est pleine d'alliages. Le baron la renouvellera, nous lui rechipperons là quelques billets de 1 000 francs. Vous devez quoi pour 2 ans à la couturière?
On peut lui devoir 6 000 francs, répondit Europe.
Eh bien, si madame Auguste veut être payée et conserver la pratique, elle devra faire un mémoire de 30 000 francs depuis 4 ans.
Même accord avec la marchande de mode. Le bijoutier Samuel Frisch, le juif de la rue Saint-Avoie, te prêtera des reconnaissances. Nous devons lui devoir 25 000 francs, et nous aurons eu 6 000 francs de nos bijoux du Mont-de-Piété. Nous rendrons les bijoux au bijoutier. Il y aura moitié pierre fausse. Aussi, le baron ne doit-il pas trop les regarder. Enfin, tu dois faire cracher encore 150 000 francs au baron, d'ici à 8 jours.
« Madame devra m'aider un petit peu, » répondit Europe. « Parlez-lui, car elle reste là comme une hébétée et m'oblige à déployer plus d'esprit que 3 auteurs pour une pièce. »
« Si Esther tombait dans le béguelisme, tu m'en préviendrais, » dit Carlos. « Nucingen lui doit un équipage et des chevaux. Elle voudra choisir et acheter tout elle-même. Ce sera le marchand de chevaux et le carrossier du loueur ou Epacard que vous choisirez. Nous aurons là d'admirables chevaux, très chers, qui boiteront 1 mois après, et nous les changerons.
On pourrait tirer 6 000 francs au moyen d'un mémoire de parfumeur, dit Europe.
Oh ! Fit-il en hochant la tête. Allez doucement, de concessions en concessions. Nucingen n'a passé que le bras dans la machine. Il nous faut la tête. J'ai besoin, outre tout cela, de 500 000 francs.
Vous pourrez les avoir, répondit Europe. Madame s'adoucirait pour ce gros imbécile vers 600 000 francs et lui en demanderait 400 pour le bien-aimé.
Écoute ceci, ma fille, dit Carlos. Le jour où je toucherai les derniers 100 000 francs, il y aura pour toi 20 000 francs.
À quoi cela peut-il me servir ?
Dit Europe, en laissant aller ses bras, en personne pour qui l'existence est impossible. Tu pourras retourner à Valenciennes, acheter un bel établissement et devenir honnête femme, si tu veux. Tous les goûts sont dans la nature. Paccard y pense quelquefois. Il n'a rien sur l'épaule, presque rien sur la conscience. Vous pourrez vous convenir, répliqua Carlos.
Retourner à Valenciennes ! « Y pensez-vous, monsieur ?» s'écria Europe, effrayée.
Née à Valenciennes et fille de tisserands très pauvres, Europe fut envoyée à 7 ans dans une filature où l'industrie moderne avait abusé de ses forces physiques. De même que le vice l'avait dépravée avant le temps. Corrompue à 12 ans, mère à 13 ans, elle se vit attachée à des êtres profondément dégradés.
à propos d'un assassinat, elle avait comparu, comme témoin d'ailleurs, devant la cour d'assises. Vaincue à 16 ans par un reste de probité, par la terreur que cause la justice, elle fit condamner l'accusé, par son témoignage, à 20 ans de travaux forcés. Ce criminel, un de ces repris de justice, dont l'organisation implique de terribles vengeances, avait dit, en pleine audience, à cet enfant « Dans 10 ans, comme à présent, Prudence, Europe s'appelait Prudence Servien. Je reviendrai pour te terrer. Dussé-je être fauché ?» Le président de la cour essaya bien de rassurer Prudence Servien en lui promettant l'appui, l'intérêt de la justice. Mais la pauvre enfant fut frappée d'une si profonde terreur qu'elle tomba malade et resta près d'un an à l'hôpital. La justice est un être de raison, représenté par une collection d'individus sans cesse renouvelés, dont les bonnes intentions et les souvenirs sont comme eux excessivement ambulatoires. Les parquets, les tribunaux, ne peuvent rien prévenir en fait de crime. Ils sont inventés pour les accepter tout fait. Sous ce rapport, une police préventive serait un bienfait pour un pays. Mais le mot « police » effraie aujourd'hui le législateur qui ne sait plus distinguer entre ces mots « gouverner »,« administrer », »,« faire les lois ». Le législateur tend à tout absorber dans l'État, comme s'il pouvait agir. Le forçat devait toujours penser à sa victime et se venger alors que la justice ne songerait plus ni à l'un ni à l'autre. Prudence, qui comprit instinctivement, en gros si vous voulez, son danger, quitta Valenciennes et vint à 17 ans à Paris pour s'y cacher. Elle y fit 4 métiers, dont le meilleur fut celui de comparse à un petit théâtre. Elle fut rencontrée par Paccard, à qui elle raconta ses malheurs. Paccard, le bras droit, le séide de Jacques Collin, parla de Prudence à son maître. Et quand le maître eut besoin d'une esclave, il dit à Prudence « Si tu veux me servir comme on doit servir le diable, je te débarrasserai de Duru. » Duru était le forçat, l'épée de Damoclès suspendue au-dessus de la tête de Prudence Servien. Sans ces détails, beaucoup de critiques auraient trouvé l'attachement d'Europe un peu fantastique. Enfin, personne n'aurait compris le coup de théâtre que Carlos allait produire. « Oui, ma fille, tu pourras retourner à Valenciennes. Tiens, lis !» Et il tendit le journal de la veille en montrant du doigt l'article suivant. Toulon. Hier a eu lieu l'exécution de Jean-François Duru. Dès le matin, la garnison, etc. Prudence lâcha le journal. Ses jambes se dérobèrent sous le poids de son corps. Elle retrouvait la vie, car elle n'avait pas, disait-elle, trouver de goût au pain depuis la menace de Duru. Tu le vois, j'ai tenu ma parole. Il a fallu 4 ans pour faire tomber la tête de Duru en l'attirant dans un piège. Eh bien, achève ici mon ouvrage, tu te trouveras à la tête d'un petit commerce dans ton pays, riche de 20 000 francs, et la femme de Paccard, à qui je permets la vertu comme retraite. Europe reprit le journal et lut avec des yeux vivants tous les détails que les journaux donnent, sans se lasser, sur l'exécution des forçats depuis 20 ans. Le spectacle imposant, l'aumônier qui a toujours converti le patient, le vieux criminel qui exhorte ses ex-collègues, l'artillerie braquée, les forçats agenouillés, puis les réflexions banales qui ne changent rien au régime des bagnes où grouillent 18 000 crimes. « Il faut réintégrer Asie au logis, » dit Carlos. Asie s'avança, ne comprenant rien à la pantomime d'Europe. « Pour la faire revenir cuisinière ici, vous commencerez par servir au baron un dîner comme il n'en aura jamais mangé, » reprit-il. « Puis, vous lui direz qu'Asie a perdu son argent au jeu et s'est remise en maison. Nous n'aurons pas besoin de chasseurs, Paccard sera coché. » Les cochers ne quittent pas leur siège, où ils ne sont guère accessibles. L'espionnage l'atteindra moins là. Madame lui fera porter une perruque poudrée, un tricorne en gros feutre galonné. Ça le changera. Je le peindrai d'ailleurs.
Nous allons avoir des domestiques avec nous, dit Asie en louchant.
Nous aurons d'honnêtes gens, répondit Carlos.
Toute tête faible, répliqua la mulâtresse.
Si le baron loue un hôtel, Paccard a un ami capable d'être concierge, reprit Carlos. Il ne nous faudra plus qu'un valet de pied et une fille de cuisine. Vous pourrez bien surveiller deux étrangers.
Au moment où Carlos allait sortir, Paccard se montra.
Restez, il y a du monde dans la rue, dit le chasseur.
Ce mot si simple fut effrayant. Carlos monta dans la chambre d'Europe et y resta jusqu'à ce que Paccard fût venu le chercher, avec une voiture de louage qui entra dans la maison.
Carlos baissa les stores et fut mené d'un train à déconcerter toute espèce de poursuite.
Arrivé au faubourg Saint-Antoine, il se fit descendre à quelques pas d'une place de fiacre où il se rendit à pied et rentra quai Malaquais en échappant ainsi aux curieux.
« Tiens, enfant, dit-il à Lucien en lui montrant 400 billets de 1000 francs. Voici, j'espère, un acompte sur le prix de la terre de Rubempré. Nous allons en risquer 100 000. On vient de lancer les omnibus. Les Parisiens vont se prendre à cette nouveauté-là. Dans 3 mois, nous triplerons nos fonds. Je connais l'affaire. On donnera des dividendes superbes pris sur le capital pour faire mousser les actions. Une idée renouvelée de Nucingen. En refaisant la terre de Rubempré, nous ne paierons pas tout sur le champ. Tu vas aller trouver des lupeaux et tu le prieras de te recommander lui-même à un avoué nommé Desroches, un drôle futé que tu iras voir à son étude. Tu lui diras d'aller à Rubempré, d'étudier le terrain, et tu lui promettras 20 000 francs d'honoraires s'il peut, en t'achetant pour 800 000 francs de terre autour des ruines du château, te constituer 30 000 livres de rente. « Comme tu vas, tu vas, tu vas !»«
Je vais toujours, ne plaisantons point. » Tu t'en iras mettre 100 000 écus en bon du trésor, afin de ne pas perdre d'intérêt. Tu peux les laisser à Desroches. Il est aussi honnête homme que Madré. Cela fait, cours à Angoulême, obtiens de ta sœur et de ton beau-frère qu'ils prennent sur eux un petit mensonge officieux. Tes parents peuvent dire t'avoir donné 600 000 francs pour faciliter ton mariage avec Clotilde de Grandlieu. Ce n'est pas déshonorant.
« Nous sommes sauvés !» s'écria Lucien, ébloui.
« Toi, oui, reprit Carlos, mais encore ne le sauras-tu qu'en sortant de Saint-Thomas-d'Aquin avec Clotilde pour femme.
« Que crains-tu ? » dit Lucien en apparence plein d'intérêt.
« Il y a des curieux à ma piste. Il faut que j'aie l'air d'un vrai prêtre, et c'est bien ennuyeux. Le diable ne me protégera plus en me voyant un bréviaire sous le bras. »
En ce moment, le baron de Nucingen, qui s'en alla donnant le bras à son caissier, atteignait à la porte de son hôtel.